Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et bienvenue dans notre libre journal des historiens. Alors j'ai invité aujourd'hui un habitué de notre émission, puisque depuis de nombreuses années, c'est lui qui porte en quelque sorte le sujet de la guerre d'Algérie, puisqu'il s'agit de Jean Monneret. Et la raison de notre émission aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le triste anniversaire de la fusillade de la rue d'Isly à Alger le 26 mars 1962. C'est un épisode dramatique de ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie. Ça constituait une rupture dans la phase finale de ce conflit. Et Jean Monneret a consacré un énorme travail à cette période. C'est lui, par ailleurs, qui a mis en lumière ce qu'ont été les massacres d'Oran de l'été 1962, et il connaît particulièrement bien cette séquence. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui. Alors, Jean Monneret, merci d'abord de votre présence, qui est toujours précieuse.
Tout l'honneur est pour moi.
Est-ce que cet épisode du 26 mars 1962, quelque part aujourd'hui, il est quand même pas mal oublié? Ça fait partie de la période un peu chaotique qui a vu la fin de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il y a une mémoire de cet épisode-là?
Écoutez, je crains malheureusement que vous ayez raison de dire qu'il est un petit peu, il est très oublié. Mmh. Et il est rare qu'on en parle en dehors des milieux des Français d'Algérie et de leurs amis. Mmh. C'est d'autant plus inquiétant que, à côté de ça, lorsque officiellement, on en a parlé après des décennies d'un silence total. Ouais. Il se trouve que si on se rend sur le site du ministère des Affaires étrangères, il y a une allusion au combat, entre autres, de la guerre d'Algérie. Et donc, à un certain moment, il y a une note, je crois que c'est dans le cadre d'un sous-chapitre, sous-titre, je ne trouve pas bien le mot, qui s'appelle « Mémoire des hommes ». Il y a une allusion qui est faite au 26 mars et qui me paraît très, très insuffisante, parce que malgré tout, jadis, il y a quelqu'un qui s'était penché sur ce problème et qui a fait un très beau travail, dont je suis tout à fait tributaire aujourd'hui quand j'en parle, Madame Francine Dessaigne. Elle a écrit un livre qui s'appelait « Un crime sans assassin ». Ce livre était remarquable, avec beaucoup de photos, de textes, d'interviews des acteurs, y compris des généraux qui étaient aux commandes des affaires militaires à Alger à ce moment-là. Malheureusement, ce livre n'a peut-être pas eu une diffusion suffisante.
Il est introuvable aujourd'hui, j'imagine.
Difficilement. Mmh. On peut le trouver sur Internet, mais il faut chercher un petit peu. Et puis malheureusement, c'était un bel ouvrage, mais avec beaucoup de photos, etc. Donc il est un petit peu coûteux.
Et puis il avait été tiré, j'imagine, un volume limité.
Limité. Enfin, je continue pour ma part à expliquer qu'il y a des connaissances à ce sujet et qu'il faudra toujours attirer l'attention des historiens sur ce que l'on sait aujourd'hui de cet événement.
Alors, l'événement lui-même, il faut d'abord rappeler les faits, pour que certains de nos auditeurs sans doute les ignorent. Que s'est-il passé ce jour-là, et dans quel contexte surtout. Nous sommes à un moment, mars 1962,
19
nous
mars.
Sommes au lendemain des accords d'Évian, et ceci explique cela, évidemment.
Oui, vous avez raison de le souligner. Ce qu'on appelle les accords d'Évian sont situés officiellement, ils avaient été conclus le 18, tardivement, et ils ont été rendus publics le 19. Donc c'est la date du 19 mars qui est retenue historiquement pour la conclusion des accords d'Évian.
C'est même une date officielle.
Officielle, puisque certains, à l'initiative de M. Hollande, ont cru bon de lancer une commémoration du 19 mars, qui est présentée comme la fin des combats en Algérie, ce qui est parfaitement ridicule.
Ah oui, parce que la guerre a continué quand même ensuite.
Et comment ? Et alors donc, j'étais d'ailleurs... nous allons voir demain comment ça va se passer, puisque nous sommes le 25. Nous allons voir si demain il y a beaucoup de gens qui commémorent la fin des combats. Nous verrons, parce que c'est devenu officiel. Nous, dans le milieu, j'allais dire dans le milieu des historiens, mais aussi dans le milieu des Français d'Algérie, dans le milieu des anciens combattants, dans le milieu de tous ceux qui sont proches de ces groupes de personnes, ce que l'on fait le 26 mars, c'est... Donc demain, on commémore les victimes de cette journée tragique, et qui ont été assez nombreuses, puisque le chiffre, il n'y a pas de chiffre officiel, mais enfin on l'évalue à 60 au minimum, 60 morts et un nombre incalculable de blessés, mais... parmi les blessés qui ont été conduits à l'hôpital, certains sont morts à l'hôpital, donc on pense quand même que ça se situe, le chiffre des morts se situerait entre 60 et 100. Et ce qui est loin d'être...
D'être négligeable. Oui.
C'est loin d'être négligeable. Alors il faut rappeler que la fusillade du 26 mars, je vais expliquer qui a tiré sur qui, la fusillade du 26 mars se déroule une semaine après le 19 mars, c'est-à-dire après les accords dits accords d'Évian.
La conclusion des accords d'Évian, oui.
Voilà. Et donc, une semaine après, alors qu'est-ce qui se passe à partir des accords d'Évian ? Loin que, comme vous l'avez justement souligné, loin que les combats se terminent, il y a une atmosphère de guerre civile. L'armée française, certains corps spécialisés dans l'armée française, en particulier la gendarmerie, mais pas seulement, il faudrait entrer beaucoup dans le détail. Il y a des régiments qui combattent l'OS. Qu'est-ce que c'est que l'OS ? C'est l'organisation armée secrète, c'est-à-dire les gens qui continuent à lutter pour l'Algérie française. De nombreux pieds noirs, évidemment, parmi eux, mais il y a aussi des militaires français, des officiers qui ont déserté, c'est le mot officiel en tout cas, mais qui ont décidé de rejoindre le combat clandestin avec l'organisation armée secrète. Autant dire que le climat est celui d'une guerre civile, quoi, parce qu'il y a des Français qui s'opposent à d'autres Français, des militaires qui s'opposent à des civils, des citoyens français, bon, bref. C'est une situation extrêmement particulière et parfois extrêmement dangereuse. Un mot peut-être sur ce qui s'est passé avant le 26 mars.
Bien sûr, bien sûr. Sur les événements en amont, oui.
Il y a eu une intervention de l'armée française, c'est-à-dire des unités chargées du maintien de l'ordre à Bab El Oued, qui est à l'époque un quartier... très populaire et qui est un quartier européen à cette époque-là. Oui. Bab El Oued, c'est la base...
C'est le quartier populaire européen.
C'est la base de l'OS. C'est une base arrière et même... enfin bref. Donc, les forces de l'armée française qui sont chargées du maintien de l'ordre sont entrées dans Bab el Oued après une fusillade qui a eu lieu entre des militaires français et des commandos de l'OAS. Et il y a une riposte, si on peut dire, du commandement militaire français qui envoie à Bab el Oued des commandos de l'armée pour... réprimer les commandos de l'OS qui s'y trouvent, et non sans dommage pour la population civile qui est là. Et c'est alors que, nous sommes là le 23 mars, c'est alors que l'organisation armée secrète, tout au moins la section de l'armée secrète qui commande le centre d'Alger, appelle les pieds noirs, les civils pieds noirs, à manifester en soutien à Bab el Oued. Alors, j'en profite pour signaler que entre le centre d'Alger et Bab el Oued, il y a presque 2 kilomètres. Je dis ça parce que certains en parlent aujourd'hui comme si les manifestants du centre d'Alger avaient forcé un cordon de soldats de l'armée française pour apporter le secours à Bab el Oued, comme si c'était le quartier voisin. Vous voyez, en réalité, il y a 2 kilomètres entre ces deux zones. Et la probabilité que les manifestants du centre-ville puissent gagner Bab el Oued était très limité, puisqu'il y avait 2 kilomètres à faire et que ces 2 kilomètres étaient occupés par des soldats français avec des blindés. Bref, ils étaient dans le centre d'Alger et c'était une manifestation, je pense, de soutien, mais symbolique. Il n'était pas question qu'on franchisse un cordon de soldats et puis qu'on aille à Bab el Oued.
Il n'était pas question d'une insurrection générale.
Enfin, le climat était un climat de guerre civile, ça il faut le dire, hein, l'OS et les gendarmes, etc. Et que devient le FLN pendant ce temps? Bien, le FLN, il a signé les accords d'Évian, donc théoriquement, il a arrêté les combats. C'est-à-dire qu'il n'affronte plus l'armée française comme c'était le cas auparavant. Mais comme on s'en apercevra en divers épisodes, en diverses circonstances, il peut arriver que les autorités françaises, je ne dis pas se concertent, ce serait trop dire, mais enfin, sans s'appuyer sur le FLN, qui occupe des quartiers entiers d'Alger, y compris à commencer par le quartier de la Casbah, qui est un quartier très sensible, très central. Parfois, il arrive que certaines offensives des uns et des autres puissent se coordonner un petit peu, vous voyez. Et je dis un petit peu parce que je veux rester modéré dans mon expression, mais on a eu des cas très, très précis où le FLN a pu fournir des renseignements à la gendarmerie, etc., contre l'OS. Ce sont des choses qui sont historiquement bien établies.
Vérifiées, oui.
Voilà. Et alors, que se passe-t-il donc le 26 mars à l'appel? Alors, on ne peut pas dire à l'appel de l'OS, parce que moi j'ai interrogé ils sont morts maintenant, mais enfin j'ai interrogé des responsables de l'OS comme le docteur Pérez, comme Jean-Jacques Susini. Ils m'ont dit qu'eux, ils étaient contre la manifestation au centre-ville, mais que ça avait été lancé par un officier qui dirigeait localement les équipes de l'OS, que c'est lui qui avait appelé à cette manifestation, puisque ça le concernait, puisqu'il était responsable d'Alger Centre. Toutefois, selon les dirigeants que j'ai interrogés, dans la clandestinité, parfois les ordres ne remontent pas bien ou ne redescendent pas bien. Bref, on ne peut pas dire que l'OS était favorable à cette manifestation. Pourquoi? Parce que certains n'en avaient même pas entendu parler. C'était le cas du général Salan, par exemple, qui a été très aide, paraît-il, qui a appris ensuite qu'il y avait une manifestation.
Qui était présent à Alger à ce moment-là.
Qui était dans la clandestinité.
Dans la clandestinité,
c'était
oui.
C'était le cas aussi de Susini, de Jean-Jacques Susini.
Oui, Jean-Jacques Susini, oui.
Et tous deux m'ont dit qu'ils étaient contre cette manifestation, mais que... Bon.
Et vous écoutez Radio Courtoisie.
Grâce à Dieu. bref, ce que je voulais dire, c'est que cette fusillade qui a éclaté entre le service d'ordre français, il s'agissait de soldats du 4e RT, 4e régiment de tirailleurs. Autrefois, anciennement, 4e régiment de tirailleurs algériens, un régiment glorieux, parce qui avait fait le débarquement en Italie,
en Provence,
etc. Donc c'est un régiment prestigieux. Alors j'ai bien connu le général Goubard. Le général Goubard était le chef de corps de ce 4e RT. Et lui-même ne savait pas que ces hommes allaient être employés dans le service d'ordre au cœur d'Alger. Il faut expliquer. Le 4e RT, régiment de tirailleurs, autrefois régiment de tirailleurs algériens, était un régiment qui était basé dans le sud algérois et qui était employé constamment, mais dans des activités, dans des luttes, dans des affrontements contre le FLN. Et donc ces hommes, les hommes de troupe, étaient pour la plupart des musulmans, hein, des musulmans ralliés à l'armée française, bien sûr. Certains ayant été, il y avait même parmi eux d'anciens messalistes qui avaient été persécutés par le FLN et qui s'étaient ralliés à l'armée française. Donc un certain nombre de ces soldats, les sous-officiers étaient l'encadrement était généralement européen. Ces soldats avaient été utilisés dans la périphérie d'Alger, dans des zones comme, des zones qui étaient peuplées dans des quartiers musulmans. Parce que pour maintenir l'ordre dans des quartiers musulmans, le commandement utile d'y employer des soldats musulmans pour des questions de communication.
Sachant qu'il y a d'énormes effectifs musulmans dans l'armée française à l'époque. Il y a davantage de musulmans dans l'armée française que dans les rangs
que dans les rangs du FLN, sur toute la période. Hein. Et alors donc, le général Goubard, avec lequel j'ai échangé toute une correspondance, à l'époque on n'avait pas encore l'Internet comme aujourd'hui, j'ai donc échangé beaucoup de lettres avec lui, j'ai toujours ses lettres, et il expliquait donc qu'il s'inquiétait que l'on puisse employer ces hommes, qui étaient donc d'une troupe de tirailleurs, donc massivement musulmane, on puisse l'utiliser pour le maintien d'ordre dans les quartiers européens d'Alger. Donc, comme il s'inquiétait, le général Goubard en avait parlé au général Aïré. Je me permets de rappeler que le général Aïré, c'est lui qui commandait à toutes les forces armées françaises en Algérie à l'époque. Il est le génie super, comme on dit. Si bien que ce général Aïré, c'était celui à qui le général Goubard devait s'adresser pour lui faire part de ses inquiétudes. Il se trouve que précisément, quelque temps avant ces journées que nous évoquons, le général Aïré est passé voir le 4e RT. Il discute avec le général Goubard était à l'époque encore colonel, mais c'était lui le chef de corps. Et il s'ouvre de ses inquiétudes au général Aïré, il lui dit, écoutez, faut pas employer cette troupe dans le centre-ville d'Alger, qui à l'époque est massivement européen. Or, la manifestation dont nous parlons, pour le 26, elle se déroule dans le centre d'Alger, dans le centre européen d'Alger. Alors, ce qui va se produire, c'est que le général Ayré dit « pas de problème, je donnerai instruction que l'on n'emploie pas ces troupes du style tirailleur pour le maintien de l'ordre en quartier européen. »
Parce que de plus, je crois que ces troupes n'étaient absolument pas formées pas pour le maintien de l'ordre.
C'est des troupes. Ville.
En ville, bien voilà. sûr, des troupes qui étaient engagées sur le terrain contre les maquisards voilà. du FLN.
C'était des troupes opérationnelles. Parfois, c'est pas la même chose. Ce qu'on appelle le Marzen et les Morazni, c'est un peu différent, mais on peut pas entrer dans tous les détails. Et donc, ordre du Genet Super avait été envoyé aux différents corps d'armée, ne pas employer des troupes de tirailleurs autochtones dans les grandes villes pour le centre, et particulièrement dans les centres européens. Vous aviez une question peut-être ?
Nous avons reçu un message.
Oui.
Alors que je découvre avec vous, on ne parle jamais des Françaises et des Français qui ont choisi de devenir Algériens en 1962. On parle de 200 000 personnes environ.
Non, c'est faux, complètement faux.
Jamais un commentaire n'est apporté à leur sujet. Sont-ils peu à peu convertis ou fondus dans la population?
Non, il y a une erreur.
Et qu'en est-il au juste?
Je vais vous dire ce qu'il en est au juste. Je connais bien la question. Alors, il faut rappeler des données de base. Il y avait environ 1 million d'Européens qui vivaient en Algérie sur une population globale de 10 millions. Mais au moment où nous parlons, dont nous parlons, c'est-à-dire en mars 1962, et juste après la conclusion des accords d'Évian, cette population d'1 million de personnes, grosso modo 1 million, peut-être 1 050 000, je ne sais pas, mais enfin, globalement, on dit 1 million, avait déjà commencé à diminuer. Parce que dès les événements qui sont connus comme les barricades, le putsch des généraux, etc., il y avait des gens qui lentement, quitter l'Algérie parce qu'ils étaient inquiets.
À partir de 1960, étant donné qu'on voyait bien quelle était la politique à venir du général de Gaulle.
Voilà, certains avaient compris. Et puis, il y avait autre chose, c'est qu'on oublie aussi que parmi ces pieds noirs, il y avait aussi des gens qui étaient métropolitains, et dont qui avaient de la famille en métropole, qui s'étaient dit, maintenant, l'Algérie, ça devient chaud. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'y avait plus que 850 000 Européens présents en Algérie en mars 1962. Donc, ça avait commencé à diminuer considérablement. Je ne sais plus. Alors, attendez. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut comprendre.
Notre correspondant.
Ah oui, voilà. Alors, le correspondant fait une erreur. Il a fait une erreur en parlant de 200 000 personnes qui avaient choisi la nationalité algérienne. Ouais. C'est pas ça du tout. Quand l'Algérie est devenue indépendante, après un référendum sur place dont les résultats ont été rendus officiels le 3 juillet, il y a, dans cette l'Algérie devenue indépendante, beaucoup de pieds noirs avait déjà affiché le camp, il y avait eu les aéroports encombrés, etc. Ensuite, il y a eu les événements du 5 juillet dont nous reparlerons à Oran, de sorte que ceux qui n'étaient pas partis se sont précipités de nouveau dans les aéroports et dans les ports. Mais 200 000 Européens étaient restés sur place après l'indépendance. Ils ne sont partis que très progressivement. Bon, je dis très progressivement, mais au bout d'un an déjà, pratiquement la population, cette population, résiduelle, avait déjà diminué de moitié. Il n'y avait plus que 100 000 personnes en 63-54, 100 000 Européens qui vivaient encore en Algérie. Mais ce n'est pas des gens qui avaient pris la nationalité algérienne, ça n'avait rien à voir. Car les accords d'Évian prévoyaient justement que les Européens qui voudraient rester en Algérie pourraient y rester. Mais tout en, alors il y avait une ambiguïté parce que ceux qui auraient voulu exercer des droits civiques algériens pendant une période limitée, c'était la période où était fixée, je crois. Alors, je ne sais plus si c'était un an ou deux ans maintenant. Donc, ceux qui décidaient de rester en Algérie pourraient exercer aussi leur droit de citoyen, c'est-à-dire qu'ils auraient pu voter dans le cadre de la vie politique algérienne pour élire les maires, élire des députés, mais tout ça, c'était théorique. Et en aucune façon, ils n'avaient à renoncer à leur nationalité française. Ils restaient citoyens français, vivant en Algérie et théoriquement admis à participer à la vie politique algérienne. Tout ça, c'était théorique. Dès que le FLN est arrivé au pouvoir, comme on le sait, il n'a pas appliqué les accords d'Évian, et il avait même fait voter par le nouveau Parlement algérien une règle selon laquelle seuls seraient admis à la nationalité, algérienne, seul parmi les Européens qui étaient restés en Algérie, parce que ceux qui étaient partis, ça les concernait. Le FLN n'allait pas légiférer pour des Européens qui étaient déjà partis. Mais ceux qui étaient restés, s'ils avaient voulu adopter la pleine citoyenneté algérienne, ça n'aurait pas été possible, sauf s'ils avaient participé eux-mêmes à la lutte de libération nationale. Mmh. Donc ça veut dire s'ils étaient eux-mêmes porteurs de valises. Bon. De sorte que ce ne sont pas 200 000 Européens qui ont pris la nationalité algérienne. La nationalité algérienne a été prise par très peu de gens, soit des porteurs de valises, soit des femmes européennes qui étaient épouses d'Algériens, d'Algériens qui étaient eux-mêmes déjà citoyens algériens. Parce que pour les musulmans, il n'y avait pas à choisir la nationalité algérienne. Elle leur était acquise du moment s'ils pouvaient exciper du fait qu'ils avaient trois grands-parents ayant déjà bénéficié du statut, ce que l'on appelait en Algérie le statut de droit local, c'est-à-dire statut juridique basé sur l'islam. Voilà. C'est très compliqué, mais la dame qui vous a envoyé le mail, c'est une dame, je crois.
Je sais pas.
Ah, j'ai cru comprendre. Que l'on m'excuse si je me trompe. Donc, il ne s'agit pas de 200 000 Européens qui avaient choisi la nationalité algérienne, il s'agit simplement de 200 000 personnes européennes qui étaient restées en Algérie.
Et il y a eu aussi peut-être une frange de coopérants qui sont allés en Algérie dans les années qui ont suivi, mais c'est un cas différent.
C'est un cas absolument différent parce que au moment où la grande majorité des pieds noirs quittaient l'Algérie, plus avec ceux de 100 000 qui, eux, restaient. il y a un certain nombre de gens venus de métropole, donc qui étaient des métropolitains, et qui venaient travailler en Algérie dans le cadre de la coopération. Mmh. Car il ne faut pas oublier que les accords d'Évian ont commencé par une phrase très importante. Il était dit que la coopération entre les deux pays était le cœur même, l'essence même des rapports franco-algériens. Quand on voit ce qu'ils sont devenus, on peut s'interroger.
Même plus s'interroger. Je voulais rappeler à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal des historiens, qui est dirigé par Philippe Conrad, assisté de Nicole, et nous recevons Jean Meneret, qui est historien, à propos de l'anniversaire de la fusillade du 26 mars 1962 de la rue d'Isly à Alger. Et nous sommes le 26 mars. C'est voilà. Pourquoi nous faisons ce rappel, ce triste anniversaire. Et je voulais rappeler aussi à nos auditeurs que s'ils veulent aller plus loin et préciser et se souvenir de tout cela, ils peuvent trouver le livre de Jean Meneret, Une ténébreuse affaire, la fusillade du 26 mars 1962 à Alger, donc par Jean Meneret, aux éditions L'Harmattan.
L'Harmattan. Je voudrais, Philippe, si vous m'y autorisez, je voudrais terminer sur cette question des Européens restés en Algérie. Donc, ce n'est pas la même chose, et nous étions en train d'expliquer qu'un certain nombre de Français de métropole sont venus travailler en Algérie dans le cadre de la coopération. Certains, pas tous, enfin un nombre d'entre eux étaient des gens qui sympathisaient avec la révolution algérienne, ils voyaient qu'ils fussent porteurs de valises ou simplement des sympathisants comme ça. Ces gens-là n'étaient pas très très nombreux. Enfin, dans cette période qui a suivi l'indépendance de l'Algérie, un certain nombre de ces Européens sont venus coopérer. Alors certains étaient des militants de gauche, des militants anticolonialistes, etc. Si bien que ce serait compliqué de rappeler la situation politique à l'époque, mais à l'époque, il y avait des communistes parmi eux, mais pas beaucoup, pour la bonne raison que le Parti communiste, alors ça aussi c'est quelque chose que maintenant tout le monde ou presque a oublié, le Parti communiste et le FLN ne s'entendaient pas du tout. Je parle du Parti communiste français. Le Parti communiste français et le FLN ne s'entendaient pas du tout. Leur rapport était même à une époque exécrable. Donc les gens qui venaient n'étaient pas spécialement des gens du Parti communiste ou communiste ou communisant, mais c'était souvent des gens de gauche, sympathie anticolonialiste. Et donc, quand même, tout à fait à gauche. On dit même aujourd'hui beaucoup d'extrême gauche. Bref, ces personnes étaient surnommées sur place les pieds rouges. Voilà.
Comment vous dites ?
Les pieds rouges. Parce qu'ils étaient, rouges dans la tête, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être d'autres questions, je ne sais pas.
Alors, nous avons d'autres questions également.
Alors, pouvez-vous expliquer pourquoi l'Église catholique ainsi que les autorités françaises n'ont pas incité les métropolitains en Algérie à accroître la natalité ?
Oh, alors là.
Oui.
Vous savez, je ne veux pas m'aventurer sur un sujet qui n'est pas le mien, mais enfin, vous savez. C'est l'Église catholique, c'est très particulier, les problèmes de ces dernières années. Chacun sait qu'il y a une espèce de révolution dans l'Église qu'on appelle les accords de... Oh mon Dieu, si j'oublie...
Le Concile Vatican II.
Concile Vatican II. Je suis resté avec mes accords d'Évian. Concile Vatican II. Alors vous savez, c'était très, très spécial en Algérie parce que le clergé... Bon, il faut savoir que...
Monseigneur Duval.
Voilà. Non, mais alors, il faut savoir que les Européens en Algérie étaient beaucoup plus chrétien pratiquant qu'en métropole. Hein. Bon, peut-être ça s'expliquerait peut-être parce que beaucoup étaient d'origine italienne
ou espagnole,
ceci jouait. Mais il se passait, en ce qui concerne l'église d'Algérie de cette époque, il y avait à sa tête Monseigneur Duval, qui était quelqu'un qui était absolument anti-colonial, il cachait un peu qu'il était pour l'indépendance de l'Algérie, mais enfin, l'indépendance de l'Algérie ne l'a pas trop dérangé et faisait partie de ceux qui sont restés sur place et qui entretenaient les meilleures relations avec les autorités algériennes. Parce que, notamment, Mgr Duval avait dénoncé la torture.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Pas la torture en général, mais la torture pratiquée. Vous savez, il y a eu des campagnes contre la torture, contre les parachutistes qu'on accusait d'avoir, les parachutistes du général Massu qu'on accusait d'avoir
pendant
utilisé.
Pendant la bataille d'Alger de 1956.
Voilà. Alors nous avons un autre message. Pourquoi y a-t-il tant d'Algériens en France alors que l'Algérie est riche? Veulent-ils vraiment développer leur pays?
Ah, alors écoutez, là les questions sur les Algériens en France, c'est un peu plus délicat, ça échappe, je ne dis pas que ça échappe à ma compétence, mais ce qui se dit beaucoup, c'est que l'Algérie est un pays riche avec une population pauvre. Mmh. Et c'est vrai que il y aurait beaucoup à dire sur le développement politique et économique de l'Algérie indépendante, mais enfin ce que l'on sait généralement, c'est que les dirigeants algériens, alors il faudrait voir ceux qui avaient au tout début, Ben Bella qui a été viré par Boumédienne, après quoi aujourd'hui nous avons des gens comme Tebboune et compagnie, mais ce sont quand même des gens qui s'appuient sur la caste militaire aussi, hein, qui là-bas, on ne va pas rentrer dans le détail des 60 dernières années. Mais c'est plutôt ça. Hein. C'est un pays riche dont la population est pauvre. Les dirigeants algériens utilisent beaucoup la manne pétrolière. Enfin, ils l'ont utilisé beaucoup pour, en quelque sorte, importer des vivres, des produits alimentaires, etc. Et toute l'agriculture qu'il y avait dans la Mitidja, qui était quand même quelque chose d'assez... Une belle réussite quand même des Européens dans ce secteur.
C'est assez moderne, oui.
Ça n'existe plus.
C'est-à-dire qu'on a aussi voulu appliquer une sorte de modèle socialiste après l'indépendance. D'économie planifiée, etc. sur le modèle soviétique, et ça a été un échec retentissant. Une volonté d'industrialisation sur le modèle classique, ce qui ne correspondait pas du tout aux besoins immédiats de l'Algérie.
Et surtout que la natalité des Algériens, qui était déjà très forte à l'époque française, ne s'est pas du tout ralenti, ou très très peu, jusqu'à nos jours. Hein. Ça reste quelque chose.
Vous disiez tout à l'heure 10 millions d'habitants indigènes en 1972. Aujourd'hui, on doit être à
40 millions, plus de 40 millions. Ouais. 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 Donc, ça a été multiplié par 4 ou 5. Et alors, parce qu'il y avait une question aussi sur la natalité
des Français. On parle des métropolitains, mais je pense qu'elle voulait dire les pieds noirs.
Oui, je pense.
Les Européens d'Algérie.
L'Église catholique n'encourage pas tellement non plus la natalité. Hein. Bon, tout le monde sait qu'elle est contre l'avortement, mais enfin, encourager la natalité, c'est toute une politique. Dont malheureusement nous constatons l'absence dans notre pauvre pays.
Alors nous avons encore un autre message, c'est un courriel adressé aux auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour, dites-moi pourquoi la France ne rend-elle pas caduque les accords d'Évian afin de limiter l'entrée d'Algériens sur le sol français, cordialement.
Alors les accords d'Évian... C'est une chose, mais il y a aussi des accords qui ont été passés. Le général, presque beaucoup plus tard, en 1968, et le général de Gaulle était encore au pouvoir. De sorte que lorsque j'entends dire que le général de Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie parce que, pour des problèmes démographiques, parce qu'il ne voulait pas que les Algériens,
de colomber les deux églises deviennent colomber les deux mosquées, voilà, selon la formule célèbre de l'imperfide.
Or ces accords qui ont été passés avec l'Algérie en 1968 se voulaient justement une mise à jour des accords d'Évian, parce qu'à cette époque-là, en 1968, il y avait plus du tout de pieds noirs en Algérie, ou alors d'une manière dérisoire, anecdotique. Et donc, c'est là que le règlement des échanges entre l'Algérie et la France a été fixé. C'était encore sous l'autorité du général de Gaulle. Or, ça donnait un certain nombre d'avantages. Alors, disons que l'immigré algérien qui venait s'installer en France, bon, je simplifie, mais enfin, l'immigré algérien qui venait s'installer en métropole, enfin, qui n'était plus la métropole pour lui, puisque son pays était indépendant, bénéficiait échapper à certaines contraintes qui s'imposait par contre à d'autres immigrés, d'autres pays. Alors, je ne sais pas comment, ce qui se passait dans la tête du général de Gaulle à cette époque-là, pourquoi il a... Mais en tout cas, ça a facilité beaucoup l'arrivée de vagues importantes d'immigrés algériens à cette époque-là, hein, en 1968-69.
Un souci de main-d'œuvre au moment de la grande croissance
Oui, c'était
industriel que connaît alors la France.
On était dans les années, je ne sais plus comment on les appelait, les 30 glorieuses.
Oui, les 30 glorieuses, bien sûr. Oui, oui.
Voilà. Alors, il est certain en tout cas que sous Pompidou, je me place un petit peu plus tard, le général de Gaulle ayant quitté en 69 le pouvoir, c'est Pompidou qui lui a succédé. Sous Pompidou, au début des années 72, je me souviens avoir été très frappé d'entendre dire à la radio qu'il y avait en France 1 million d'Algériens. Ce qui signifiait que par rapport à la période de la guerre d'Algérie, la population algérienne présente en France métropolitaine, avait doublé, ce qui était quand même considérable. Donc on ne peut pas dire que le général de Gaulle ait fermé les frontières aux nouveaux Algériens indépendants, aux Algériens indépendants de la France.
Je crois qu'on leur avait donné des avantages.
Oui, alors je vous dis, c'est pas ma spécialité, ce domaine. Alors je ne veux pas affirmer ça, mais je crois qu'il y a certains délais qui ils étaient exemptés de certains délais, des choses un peu compliquées aussi. Hein, donc je ne vais pas trop m'avancer sur ce point qui n'est pas ma spécialité.
Alors revenons donc au 26 mars 1962. Donc une manifestation européenne qui veut marquer une solidarité avec le quartier de Bab El Oued.
Oui.
Comment les choses se passent, Rudi Sly?
Alors attention, j'en profite pour dire que ce que les historiens ont établi maintenant, c'est que la Rudi Sly s'est imposée parce que c'est là qu'il y a eu le plus de morts.
Ouais.
Mais en réalité, les affrontements entre services d'ordre et manifestants se sont déroulés en trois endroits. Il y avait... donc la rue d'Isly, il y avait aussi un endroit un peu en contrebas par rapport à la rue d'Isly. Alors, on va dire, pour simplifier, je vais dire la rue Leluche. Et puis il y avait un troisième endroit qui était le carrefour de Laga. Alors tout ça dira peut-être rien à nos... Mais il y avait quand même trois endroits différents. Au carrefour de Laga, si mes souvenirs sont bons, il y a dû y avoir 2-3 morts. Des blessés, mais là, les affrontements se sont déroulés, si affrontements il y a eu, se sont déroulés avec des CRS. Oui. Ce n'était plus ont une organisation, si je ne me trompe pas, ils ont une organisation militaire, une hiérarchie militaire, mais ils n'étaient pas directement, c'est pas directement l'armée française.
C'est pas la gendarmerie, c'est différent.
Voilà, c'était un peu différent de la gendarmerie. Et puis, le, parce que, mais ces régiments de CRS avaient été mis à la disposition du préfet d'Alger, il faudrait parler aussi du préfet d'Alger, Vitalis Cross, qui était un personnage un peu spécial, mais enfin, on ne peut pas parler de tout. Et donc, c'est surtout rue d'Isly qu'il y a eu des morts, mais il y a aussi des affrontements dans d'autres secteurs, un petit, pas loin et pas éloignés, rue Lelu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé rue d'Isly, c'est-à-dire en plein centre d'Alger et en plein centre, à l'époque, européen d'Alger. Donc, des manifestants, alors, j'imagine quand même que certains... bon, il devait y avoir peut-être 2000, 3000 personnes dans le centre-ville. Pour Alger, ce n'était pas beaucoup. Mais enfin, les gens arrivaient...
Là, vous parlez du nombre de manifestants.
Du nombre de manifestants européens. Mais les gens arrivaient, parce qu'il y avait des barrages militaires, etc. Il y a des gens... Dans l'Alger de cette époque-là, pas mal de gens habitaient dans les banlieues aussi. Donc, ils venaient, par exemple, d'El Bihar. Donc, ils venaient difficilement, parfois, des banlieues.
Je vous arrête un instant parce que nous avons un message de la radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors, nous sommes donc au moment où la manifestation se met en marche. Nous sommes rue d'Isly. Et que va-t-il se passer à ce moment-là, autant qu'on puisse le préciser ?
Alors, ce qui va se passer, ben, c'est tout simplement que les manifestants se retrouvent à hauteur, pour ceux qui connaissent Alger ou qui l'ont connu, à hauteur de la Grande Poste. Alors, il y a ce qu'on appelle le plateau des Glières, ça a été en hommage à la Résistance, évidemment.
La Résistance de Savoie, oui.
Et alors donc, nous sommes au centre avec la Grande Poste, et donc, un contingent de manifestants avance en direction de la rue d'Isly, parce que c'est en descendant la rue d'Isly que l'on va atteindre Babelwed.
Donc
c'est leur objectif théorique, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas comment ils auraient pu parcourir 2 kilomètres avec des... Mais enfin, c'était le trajet habituel. Quand il y a eu les grandes manifestations contre Guy Mollet le 6 février 1956, les manifestants avaient utilisé ce trajet.
Le même itinéraire, oui.
On partait du centre d'Alger et on allait à pied jusqu'à, en longeant la mer d'ailleurs, jusqu'à Babelwed, Saint-Eugène. Bon. Donc, c'est le même trajet que les manifestants empruntent. Ils se trouvent à ce moment-là devant des militaires, un service d'ordre qui leur barre le chemin. Or, ces militaires, ces soldats qui leur barrent le chemin sont des gens du 4e RT et, théoriquement, on leur a ordonné, le général Ayré en personne, leur a ordonné de ne pas être utilisé, il a ordonné qu'ils ne soient pas utilisés, ces soldats, dans le maintien de l'ordre en ville européenne. Alors pourquoi cet ordre du général Ayré, puis c'est pas un petit ordre d'un petit... pourquoi sa directive très importante n'a pas été appliquée? Pourquoi ces soldats sont là? Je crois qu'il le mieux, c'est de renvoyer les auditeurs ou ceux que ce mystère intéresserait. Il faut les renvoyer, j'en ai parlé avant, le gros livre de Madame Francine de Seigne, Un crime sans assassin. Elle explique comment ces choses-là ont pu se faire. Elle a interrogé le général Hublot et le général Vuillermet. Alors le général Vuillermet est celui qui avait rédigé la directive du général Ayret. Mmh. C'était son travail. Mmh. Elle a interrogé également le général Hublot, qui était chargé de faire circuler le courrier du général Ayret en direction de ses subordonnés, selon la hiérarchie militaire. Voilà. Eh bien, alors les deux généraux disent qu'ils ne peuvent pas comprendre comment une directive de ce type, une directive de ce caractère, n'a pas été transmise aux organismes concernés. En l'occurrence, le secteur Alger-Sahel de l'armée française. Mmh. Et le corps d'armée... étant ce quatrième,
dont dépendait ce régiment.
Ce quatrième RT. Oui. Et le général Goubard, alors des années après évidemment, puisque moi sur place je ne le connaissais pas, mais plus tard j'ai fait sa connaissance grâce au général Fèvre, et nous avons même fait, je me souviens, on avait fait une réunion avec lui sur une péniche, on a fait une conférence là-dessus pour présenter le livre de Madame de Saigne. Mmh. Alors Madame de Saigne explique en détail comment une telle chose a pu se produire, mais qui est une anomalie complète. Mmh. J'en profite pour dire qu'au service historique et de la défense, qui est à Vincennes, mmh, il y a un fonds Francine de Saigne qui est absolument ouvert à tous les chercheurs. Il suffit de demander... avoir les dossiers de Madame de Saigne, et les historiens qui seraient intéressés par cette recherche auront tous les renseignements qui découlent de sa propre recherche à elle.
Alors, nous avons reçu un message qui nous dit « Que pensez-vous de l'ouvrage de Robert Buron, ancien ministre ?» Buron. Ancien ministre, carnet politique de la guerre d'Algérie, par un signataire des accords d'Évian.
Oui. Disons que parmi les négociateurs d'Évian, j'en dirai pas plus, c'était pas le pire. Hein. Oui. Mais il n'était pas non plus quelqu'un qui avait une autorité, etc. Mais le livre, puisqu'il est question de son livre, c'est un livre indispensable pour des historiens. Nous ne pouvons pas nous contenter de lire des livres parce que telle ou telle théorie ou telle thèse nous ferait plaisir. Donc son livre est très intéressant. Et alors, il est vrai qu'on peut lire dans son livre que le général de Gaulle, dans les derniers temps de la négociation, disait « Allez, il faut conclure, de sorte que... Il poussait plutôt les négociateurs à ne pas ergoter, enfin...
À des concessions éventuelles pour aller vite.
Allez, pour aller vite. Et c'est un peu, je crois, ce que l'on peut reprocher en dehors de toute autre considération, bien sûr, mais ce qu'on peut reprocher au général de Gaulle, c'est, entre autres choses... d'avoir été un peu obnubilé, je crois, par son âge, et en se disant que s'il ne faisait pas très vite ceci ou cela, il risquait de plus être là, enfin bref. Il pensait qu'il se considérait comme un homme âgé, peut-être très âgé, mais il pensait qu'il fallait faire vite, parce que quand il ne serait plus là, ben bon. Alors donc, se débarrasser de l'Algérie, c'était pour lui une urgence. Et je crois qu'on le retrouve aussi dans les mémoires de son mémorialiste improvisé, Alain Perfit. Perfit fait dire à De Gaulle, mais enfin, il paraît qu'il notait très soigneusement ce que le général De Gaulle disait à plusieurs reprises. De Gaulle disait l'Algérie, il faut s'en débarrasser, l'Algérie française, c'est pas la solution, c'est le problème. Alors, vous voyez. D'autres phrases qui sont bien connues aussi, c'est une boîte à chagrin, il faut s'en débarrasser. Mmh. Donc il voulait par contre développer d'autres points de la politique française, comme par exemple la recherche nucléaire, Alors, les essais nucléaires, le développement d'une force de frappe nucléaire, etc. Et tout ça, pour le général de Gaulle, il y avait un préalable qui était qu'on se débarrasse des...
Oui,
des colonies, notamment de l'Algérie.
Oui, puis il n'avait jamais été un partisan de l'Empire, en fait, dans sa carrière, dans son parcours, dans son analyse des rapports de force après la Seconde Guerre mondiale. Il n'était pas du tout attaché à l'idée de préserver l'Empire, ce qu'avait été la motivation de générations d'officiers, d'hommes politiques, etc.
Parfois de gens de gauche.
Ah bah bien sûr, oui. Bien sûr, qui envoyait un moteur de progrès.
Voilà. Même Jean Jaurès, on pourrait trouver des citations où il fait l'éloge de l'Empire français.
Jules Ferry et de Léon Blum.
Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai souvent souligné, en ce qui me concerne, que l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire colonial français, historiquement, c'est quand même une création de la République. C'est pas... Sous les monarchies et sous l'Empire, c'était pas trop le... Certains vont dire que c'était une colonisation différente, mais enfin, il faut quand même noter que l'empereur était... pour un royaume arabe auquel il aurait souhaité que fût placé l'émir Abdelkader, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, son projet n'a jamais...
Napoléon III.
N'a jamais démarré vraiment. Mais en tout cas, toutes les réformes qui seraient allées dans le sens de, comment dirais-je, de l'extension de la France en Algérie, en Afrique, faire de l'Algérie une province française, n'avait pas du tout le soutien de l'empereur. C'était pas du tout comme ça qu'il voyait les choses.
C'était la doctrine du royaume arabe. Et alors, c'est la République ensuite.
Alors, la République a pris la direction opposée.
Dans une perspective en plus centraliste, jacobine.
A voulu faire
une grande politique d'assimilation.
Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et donc, alors, assimilation, pas seulement administrative, c'est vrai, mais aussi, c'est là qu'on fait venir toute une immigration européenne, parce que l'immigration des métropolitains vers l'Algérie n'était pas suffisante, donc on fait venir...
Il y en a eu très peu, oui.
Il y a des lois qui sont fameuses. Alors, attendez que je ne me trompe pas sur les chiffres, 1800, il doit y avoir quelque chose comme... Il y a une loi en 1883, une loi en 1889. Ces fameuses lois qui sont toujours en vigueur, dont on parle beaucoup, avec une toute nouvelle immigration aujourd'hui, c'est les fameuses lois qui... droit du sol, la manière dont les... Et ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des lois qui ont été votées, qui ont été décidées, pour régler des problèmes algériens. C'était pour régler le problème des étrangers en France.
Eh oui.
Or, comme la République a fait de l'Algérie, elle l'avait fait un peu subrepticement en 1848, et après il y a eu l'Empire et ça n'allait pas dans ce sens, mais alors dès 1871, dès l'instauration de la Troisième République, on va tout de suite dans le sens de départementalisation, et on va pousser la départementalisation. Et comme sur le plan démographique, il n'y a pas suffisamment d'Européens pour que ça devienne une terre entièrement française avec une administration, on fait venir des immigrés qui, de fait, vont bénéficier des lois concernant la loi le droit du sol, etc. Et qui s'applique d'ailleurs, qui est toujours, on en parle encore assez souvent. Mais c'est ainsi que vont venir du sud de l'Espagne et du sud de l'Italie une masse considérable de gens qui sont les ancêtres de beaucoup de pieds noirs d'aujourd'hui.
D'immigrants européens, oui.
Voilà. Et à ce moment-là, donc, cette politique est une politique... républicaine, ce n'est plus la continuation de ce qu'il y a eu avant.
Alors revenons-en à notre affaire du 26 mars. À un moment donné, il y a l'ouverture du feu. On va tirer sur les manifestants.
Voilà.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe précisément? Certains ont dit, ben, ce sont c'est l'OAS, des militants OAS, qui ont tiré sur la troupe a réagi.
Je vais aborder ce point.
Quel est le film là précis des événements?
Est-ce que vous m'autorisez à dire, est déjà 13h, qu'il y a demain des commémorations?
Bien sûr, bien sûr. Alors,
je rappelle qu'il y aura une messe à 10h30 pour les victimes de la fusillade de la rue d'Isny. Ça se passera à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. À 14h30, vont se retrouver les gens qui veulent favoriser cette commémoration au quai Branly. Je précise que les noms des personnes qui sont tombées ce jour-là figurent au quai Branly. Ils sont considérés, après de nombreuses réclamations, les autorités françaises ont fini par accepter de considérer que
c'est le monument commémoratif de la guerre d'Algérie.
Et pas seulement, la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Et au Maroc, en Afrique du Nord.
C'est assez vaste.
Afrique du Nord, oui.
Mais la liste, on n'aura jamais une liste complète, mais enfin, un certain nombre de gens qui sont tombés rue d'Isly sont considérés aujourd'hui par les autorités françaises comme étant tombés, morts pour la France. Ça ne s'est pas fait facilement, il y a eu beaucoup d'allers-retours.
Je pose une question à ce sujet. Est-ce qu'on a considéré de la même manière que les Européens assassinés en juillet 62 à Oran sont aussi reconnus comme morts pour la France?
Oui, je crois. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Le problème qu'on a eu avec Oran, mais je crois qu'on a beaucoup progressé depuis 60 ans, c'est qu'au départ, on n'avait pas de liste. Et il y a bien une liste de disparus, de personnes enlevées, portées disparues, être enlevées et être disparues, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y en a qui ont été enlevées et qui sont toujours disparues, puis il y en a qui ont été enlevées mais qui ont été libérées ou qu'on a retrouvées mortes. Enfin bon, bref, je ne vais pas entrer dans ces détails. Toujours est-il que, ceux dont on a bien la liste, parce qu'on a été très exigeants, il y a une association qui s'appelle le centre de recherche des Français disparus en Algérie. Et on a été très exigeant là-dessus, parce qu'il fallait vraiment que...
Sur la documentation des faits.
Il fallait vraiment une liste qui soit inattaquable de disparus. Alors parmi eux, il y a ceux d'Oran.
D'accord.
Et donc, ceux d'Oran dont on a précisément la liste, leur nom figure aussi là. Voilà.
Alors, revenons
au
26 mars. Qu'en est-il de l'ouverture du feu? Pourquoi? Comment? Dans quelles circonstances?
Voilà. Alors, les manifestants arrivent dans le... Ils se heurtent à des barrages. Et alors, ces barrages ne sont pas des barrages très hermétiques. D'après les témoignages, bon, il y a quelques chevaux on appelle ça des chevaux de frise.
Oui, des chevaux de frise, oui.
Bon, avec un petit peu de barbelé, on voit beaucoup dans le livre de Madame
De Seigne.
De Seigne, on voit beaucoup, beaucoup de photos qui ont été prises sur place à ce moment-là. Et donc, c'est quand même un peu lâche. C'est pas des rangs très serrés de soldats. En revanche, il est facile de comprendre qu'ils sont tous armés, porteurs d'armes lourdes, et, comment dirais-je, en position de combat, c'est-à-dire avec les munitions engagées dans l'arme. Donc, ils sont en position exactement comme s'ils participaient à une opération contre le FLN dans le bled, comme celle auquel ils sont habitués. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bousculades. Il semble apparemment... Alors, il y a un lieutenant que l'on a connu par la suite, qui s'appelait le lieutenant Houchen. Il est mort aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est lui qui commande les chevaux de Frise. À... Mmh. Et alors, il y a une photo très célèbre aussi de Paris Match où on le voit discuter avec des manifestants, ouais. Et il leur dit ne restez pas là, ne cherchez pas à avancer, parce que nous avons ordre de tirer. Il le dit carrément. Hein.
Oui.
On l'a connu après, parce qu'il avait ensuite... lui-même a été, comment dirais-je, poursuivi par le FLN, donc il a même été enlevé à un moment. Donc il a été enlevé et libéré, et il s'était réfugié en métropole, donc il fréquentait des pieds noirs en métropole. Lui-même était d'origine kabyle. Donc il dit, on nous a donné l'ordre de tirer, alors ne restez pas, partez, parce que... Bon. Et alors, la version officielle... c'est qu'on a tiré, alors certains disent 64 de l'immeuble, 64 rue Michelet, d'autres disent, attendez, est-ce que je dise pas de bêtises, oui, il y a la rue, certains avaient été censés avoir tiré depuis la rue Leluche, d'autres depuis donnez-moi 3 secondes, oui, enfin, donc, d'autres auraient tiré depuis la rue, de l'immeuble de la rue Michelet. Ce que je voulais dire, c'est que ceci n'a jamais été prouvé. Et du moins, cette théorie, car pour moi ça reste une théorie, laisse à penser quand même que c'est très flou, parce que Madame de Seigne a enquêté pour savoir si de la rue Leluche il y avait eu elle a retrouvé des gens qui étaient dans l'immeuble, a retrouvé celui dont l'appartement aurait servi de
ouais, abriter les tireurs
à un tireur, et il dit ben moi c'est impossible, je suis allé là-bas quand j'ai entendu des coups de feu, je suis allé sur le balcon pour fermer mes fenêtres. Très imprudent d'ailleurs. Et je crois, je me souviens plus bien, mais il me semble qu'il avait été blessé. Donc l'histoire du 54 rue Leluche, parce qu'il faut savoir que la rue où il y a eu le plus de morts était comme ça. Elle montait comme ça, et la rue Leluche était en contrebas. Donc, ceux qui tiraient de l'immeuble de la rue Leluche auraient tiré sur le bas des manifestants qui étaient dans une rue montante. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Le problème, c'est que plus tard, des photos de cette rue ont été publiées par les gendarmes, etc., disant, voilà la preuve qu'il y a quelqu'un qui tirait depuis... Bon. Et il y a même une photo d'une Volkswagen, je crois, qui était garée dans cette rue un peu en pente, et dont il y avait des orifices, enfin des impacts de balles qui se voyaient, avec des orifices qui, paraît-il, étaient dirigés depuis la rue Leluche. Bon, écoutez, moi j'ai vu ces photos, j'ai vu le dossier, parce que j'ai connu quelqu'un dont le travail était il était un expert d'affaires militaires, de tout ce qui était armes, tirs, etc., auprès des tribunaux. Donc, il avait analysé cette photo, les documents dont on disposait. Il était très sceptique concernant un tir qui serait venu du bas, en remontant. Bon. Si bien que on peut mettre en doute, on peut douter de ces tirs. D'autant plus que le premier communiqué officiel faisait état d'un tir qui serait parti de la rue Charras pour arriver à un immeuble proche des facultés. Alors ceux qui connaissent Alger savent que la rue Charras est en contrebas, c'est impossible parce qu'il aurait fallu que le tir, ça soit quelque chose qu'on appelle ça une courbe asymptotique, quoi. Ce sera un peu bizarroïde. Alors, je veux bien répondre à des questions, je ne sais pas. Les gens sont de bonne volonté, ils nous envoient des messages.
Alors, je peux peut-être en lire un. Cher monsieur Monneret,
oui.
N'hésitez surtout pas à rappeler les révélations de Jacques Soustel, contenues notamment dans son livre « L'espérance trahie ». La sinistre comédie gaulienne y est détaillée par le menu.
Ah oui, 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 c'est un livre intéressant, mais y compris d'ailleurs hein, pour la recherche historique. Ah, puisque
pour, Soustel.
Soustel, oui.
Alors, il y a une question aussi... précise.
Oui, alors là, c'est un auditeur de Radio Courtoisie. Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Et combien de soldats français et civils français portés disparus en Algérie ? Point d'interrogation. Bien cordialement.
Ah, malheureusement, vous savez, il y a un général, qui s'appelle le général Fournier, je crois d'ailleurs qu'il lui est arrivé de passer à Radio Courtoisie quelquefois, qui a fait une recherche justement portant sur les militaires disparus pendant la guerre d'Algérie. Parce qu'il s'est produit la chose suivante, c'est que lorsque ce général, général Fournier, c'est un ami d'ailleurs, lorsqu'il s'est intéressé à ce problème, il s'est rendu compte, nous sommes fréquentés beaucoup au service historique de la Défense, hein, je l'ai souvent rencontré là-bas, et il me disait, je suis venu pour essayer de savoir combien il y avait eu de militaires portés disparus, ben, tout simplement les autorités françaises ne le savaient pas. Donc, il a fait des recherches pendant plusieurs années, là, et c'est très précise, de sorte qu'aujourd'hui, alors, je ne me rappelle plus du chiffre global. Mais ce que je peux vous dire, c'est que après les accords d'Évian, il y a eu quelque chose, alors, comme 376 ou 386 militaires portés disparus. Après les accords d'Évian, hein. Donc, ce qui prouve quand même que la situation n'était pas une situation stabilisée, le moins du monde. Alors, le chiffre global je préfère ne pas vous donner le chiffre global pour toute la guerre d'Algérie, oui. Parce que je ne l'ai pas en tête.
Mais on parle pour les militaires de 24 000 tués, je crois.
Ah, alors ça, oui, c'est différent.
Oui,
parce que souvent, quand on dit les disparus, c'est un peu comme lorsqu'on dit nos chers disparus, mmh. Donc on parle gens morts.
Oui.
Alors, des gens qui sont tombés, qui ont perdu la vie en Algérie, il y en a en effet, je crois me souvenir que le chiffre est de 25 000.
Oui, c'est ça. C'est...
Donc, grosso modo. Hein.
Et ça, ce sont des militaires... français.
Des militaires français, oui, oui.
Y compris les auxiliaires musulmans de l'armée française.
Ah, alors attendez.
Sans parler de la liquidation des harkis après l'indépendance.
Voilà, parce que les harkis n'étaient pas dans l'armée française, hein, mm-hmm. Ce sont des supplétifs. Donc les comptes que l'on peut faire pour les harkis, oui. C'est à part. Mais quand on parle des soldats qui sont tombés au combat pendant la guerre d'Algérie, évidemment, ça concerne aussi bien des Européens que des musulmans. Hein. D'ailleurs, quand on assiste à au Quai Branly, quand on voit défiler les noms des soldats qui sont tombés pendant les combats en Algérie, on voit beaucoup de noms musulmans. Hein. Ils étaient français et ils étaient dans l'armée française. Ceci, c'est pas, la question ne se pose pas.
Mmh.
Mais évidemment, c'est tout à fait autre chose si on veut évaluer les morts du FLN, ceux qui sont morts dans les combats contre l'armée française.
Mmh.
Et c'est différent également pour les supplétifs. Parce que les supplétifs étaient... Il paraît qu'il y a eu des supplétifs européens, ça m'étonne un peu, mais enfin, ça, exceptionnellement peut-être. Mais la grande majorité des supplétifs de l'armée française étaient évidemment des musulmans hostiles au FLN.
Quand vous parlez de supplétifs européens, quel était le statut des unités territoriales ?
Alors, c'est encore autre chose. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Guy Mollet était au pouvoir, Il a fait un gros effort à un moment, parce que le Fellen avait développé...
Il a envoyé le contingent.
Il a envoyé le contingent. Alors, en même temps, il y avait un grand besoin pour les forces militaires. Il y avait un grand besoin de gens qui soient là pour tenir le pays, tenir des emplacements, etc. C'est la raison pour laquelle on a fait appel au... ce que nous disions à l'instant, là, le...
Les unités territoriales.
Les unités territoriales. Je commence à... ma mémoire. Bon, bref, les unités territoriales, c'était des gens, des anciens combattants que l'on avait, qui avaient fait la guerre mondiale et que l'on avait rappelé au service pour des périodes...
Oui, comme des réservistes, quoi.
Comme des réservistes. Mmh. Alors, pour certains, moi, je me rappelle, mon oncle était comme ça, territorial, donc je crois bien qu'il allait une fois par mois. Alors parfois, il s'agissait de choses très simples, hein. Par exemple, c'était pas pour participer à des opérations militaires, mais par exemple pour garder une usine électrique ou veiller sur tel ou tel bâtiment d'importance, pour qu'il ne soit pas l'objet...
Oui, des missions de sécurisation plus que
sécurisation.
De combat.
Alors parfois, ça se passait très très bien. Il y en a qui n'avaient pas grand-chose à faire et qui pouvaient jouer aux cartes. Et puis d'autres, par contre, qui devaient faire des patrouilles, des chaussures. Mais il y en avait. Rares étaient les unités territoriales qui participaient aux opérations militaires. Mais il y en avait quand même. En particulier, j'avais un autre oncle... lui était agriculteur, alors il était spécialiste des tracteurs, mais comme il avait fait la guerre mondiale, spécialiste des tracteurs, il était devenu spécialiste des chars d'assaut. Parce qu'il se meuvent de la même façon. Oui. Donc, il a participé à des opérations parce que les unités blindées pouvaient avoir besoin de lui. Quoi. Puis alors, il y avait ceux qui étaient, par exemple... interprète pour des... Vous voyez, les interprètes de la guerre mondiale, ceux qui étaient interprètes français-arabes pendant la guerre mondiale avaient été parfois rappelés au titre de territoriaux aussi. Mais...
Et alors, pour revenir encore une fois au 26 mars, l'ouverture du feu,
alors, voilà,
comment est-ce qu'elle se...
Alors,
est-ce qu'elle intervient ?
La thèse officielle, c'est que des gens... résumé de l'OS, aurait tiré sur le service d'ordre musulman. Alors les uns de la rue Leluche, les autres de la rue Michelet, ou de la rue Dijli, maintenant j'ai un peu la confusion. Ce qui est discutable, toujours est-il que la réponse du service d'ordre en question, elle est extrêmement sévère parce qu'il tire dans la foulée. On a 60 morts, plus un nombre indéterminé de blessés. 60 morts qui ont peut-être été plus nombreux que ça même. Et donc, l'armée française, c'est une unité de l'armée française, a tiré sur des citoyens français.
Et ça a été une initiative... partie de la troupe aurait réagi à un éventuel tir extérieur ou
vous savez,
supposé...
Il y a eu quelques années après la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu un procès très intéressant qui était le procès de Bastien Thiry. Thiry, ça. À ce procès, on a refait... Les magistrats de l'époque ont voulu qu'on revoie toute cette histoire de la fusillade. Donc, une des sources les plus importantes d'informations sur la fusillade de la rue d'Isly, ce sont les... Comment on appelle ça? Les minutes, les archives du procès de Bastien Thiry. Là, tous les protagonistes d'un côté comme de l'autre ont été convoqués, ont donné leur témoignage, etc., etc. L'idée pour les avocats de Bastien Thiry, c'est d'expliquer que cette fusillade de la rue d'Isly avait expliqué son engagement, l'engagement de Bastien Thiry, lequel après ensuite avait monter un attentat...
Les petits clamards.
du petit Clamart, etc. Donc il s'agissait de sauver éventuellement la tête de Bastien Théry en faisant comprendre aux magistrats à quel point...
Ses motivations
profondes, à quel point il avait pu être bouversé par cette fusillade de la rue d'Isly. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Ben alors, après, il paraît que les témoignages qu'on a disent que la fusillade a duré 12 minutes.
Ah oui.
Ce qui est énorme avec des armes de guerre. Hein. Oui. C'est pas des...
quand même très sérieux.
Alors après, on a dit également que certains des manifestants étaient armés. Enfin, moi, j'ai lu, il y a un rapport de gendarmerie qui s'appelle le rapport Gara. Le Gara étant un officier de gendarmerie qui avait beaucoup travaillé sur ça auprès justement des musulmans qui étaient à l'œuvre ce jour-là, rue d'Isly.
Auprès des troupes qui avaient tiré, donc.
Oui, c'est ça. Et alors, ils ont interrogé aussi bien les cadres que des hommes de troupes. Alors, ce qui était assez curieux, c'est que les gens qui se trouvaient avec le lieutenant Houchen en plein au milieu de la rue d'Isly, et... alors, qui ont fait des morts, hein, évidemment. Alors, ils disaient, tous disaient qu'ils n'avaient pas tiré sur la foule, mais qu'ils avaient tiré en l'air. Alors, il y en a d'autres qui étaient... Je vous parle des témoins militaires, ceux qui avaient tiré. Beaucoup, donc, disaient qu'ils n'avaient pas tiré sur la foule, ils avaient tiré en l'air. Enfin, sur les murs.
Mais il y a eu des morts.
Et puis il y en avait d'autres quand même qui disaient qu'ils avaient tiré d'abord en l'air sur les immeubles, puis dans la foule. Vous voyez. Alors quand on rentre dans le détail de tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée qu'il y avait eu un tir depuis les immeubles est assez discutable. Et bon, ben voilà, alors après ce qui s'est passé après, c'est que... la foule s'est dispersée, évidemment, on a ramassé les blessés, etc. Mais tout de suite, ou presque tout de suite, on a eu des communiqués officiels suggérant, parce que l'OS n'était pas cité, mais suggérant que ça venait de gens de l'OS. Quoi.
Oui. Et puis des conséquences, parce qu'évidemment, il y a une radicalisation de la population européenne d'Algérie, qui va être désormais tout acquise à l'OAS au cours des semaines suivantes.
Ça, je pense quand même que le fait que la population globalement a été massivement acquise à l'OAS, je pense que c'était déjà un fait établi, si vous voulez. Mais ça va avoir d'autres conséquences. C'est que d'abord, alors il va y avoir une double conséquence. D'abord, ce que vous dites, une certaine radicalisation. Bon. Il faut pas perdre de vue que c'est là que le général Salan va être arrêté, puis le général
Jouot,
encore des messages. Bon, le général Jouot qui est à Oran, Roger de Gueldre qui dirige les commandos Delta a été arrêté aussi à cette époque-là, donc il n'y aura plus tellement de direction de l'OS non plus. Enfin, je ne dis pas ça parce que ça a un rapport directement, ça aurait un rapport avec la fusillade, non. Mais par contre, il y a une autre conséquence de la fusillade, c'est que l'exode, c'est après cette fusillade, on voit quand même un exode.
L'exode s'accélère.
Je ne dirais même pas qu'il s'accélère, je dirais qu'il prend forme d'une manière plus ou moins anarchique. Il y a beaucoup de gens qui fichent le camp carrément, ils prennent une valise, ils en vont aux aéroports, ils s'en vont vers le port d'Alger et ça commence à s'entasser là.
Alors on a encore deux messages.
Mon grand-père, José Béraguru. Guiri, je ne sais pas s'il y a des ça. Points. Ce grand-père est mort dans un attentat en Algérie en 1959. Ouais. Il était adjoint à un maire. Comment est-il considéré, mort pour la France ou autre ?
Là, il est considéré, il doit être considéré aujourd'hui, mort pour la France. Mais...
Oui.
Surtout s'il avait une fonction officielle.
Il était maire,
ouais,
donc.
Oui. Adjoint au maire, oui.
Et
alors,
puis...
il est possible, il faudrait que l'auditeur se renseigne, mais il est possible que c'était son grand-père, il a dit.
Oui, c'est son grand-père.
Il est possible que le nom de son grand-père défile au Quai Branly.
Oui, c'est à quel endroit au Quai Branly ?
Quai Branly, c'est Quai Jacques Chirac.
Quai Jacques Chirac, non, mais c'est pour le savoir,
je plaisante,
pour le
mais
dire
c'est
pour les auditeurs.
C'est près de la Tour Eiffel.
Oui, puisqu'on parle de
c'est dans le prolongement,
la manifestation de alors, demain, donc c'est demain.
Oui,
c'est
demain.
C'est demain,
14h30.
Donc.
Et puis, il y a encore une manif, il y a encore une commémoration le soir à 18h30 à l'Étoile.
Ouais, donc,
soldat inconnu.
C'est une grande journée. La messe à 10h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, demain.
Voilà.
Et ensuite, cette manifestation Quai Branly.
Dans le prolongement du quai Chirac.
Dans le prolongement du quai Chirac.
Non, c'est le musée qui a...
Et puis le soir, à l'Étoile, à quelle heure ?
18h30.
Et puis alors je dois vous lire le dernier message.
Allez.
Qui vient d'arriver.
Allons-y.
Merci pour cette émission très intéressante. Mais si l'armée française a tiré, c'est qu'un ordre a été donné.
Oui,
et
oui,
bien
oui.
Courtoisement.
Oui, oui, mais pas sur le moment. C'est ça qu'il faut préciser.
Il avait été donné en amont. Hein,
il avait été dit aux soldats que s'ils entendaient ou s'ils constataient qu'on leur tirait dessus depuis les étages, ils pouvaient répliquer directement, même sans qu'il y ait ordre direct des officiers sur place. Mais enfin, je suis un peu sceptique, pour ma part, concernant ce truc-là. Mais il n'y avait pas d'ordre officiel, non. Mmh. Et justement, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à la suite des enquêtes de Madame de Seigne, justement, il y avait un ordre tout à fait opposé du général Aéré.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission, Jean Monneret. Merci beaucoup de votre intervention pour éclairer cet épisode ô combien complexe et dramatique. De la fin de la guerre d'Algérie, période dont vous êtes un spécialiste. Et puis, j'espère que vous nous ferez bénéficier toujours de vos lumières concernant ces questions.
Je rappelle le livre.
Il y aurait beaucoup à dire.
Une ténébreuse affaire, la fusillade du 26 mars 1962 à Alger, par Jean Monneret, aux éditions L'Harmattan.
Merci beaucoup.
Voilà.
Au revoir, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal des historiens dirigé par Philippe Courad, assisté de Nicole, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 25 mars 2026, de midi à 13h30. Et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.